est au début de la création, l'avez vu quand je suis passé il n'y a pas longtemps dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 2, quand vous voyez l'esprit qui couve au-dessus de l'abîme, il est comme en incubation et il est sur le point de participer à la création de l'univers. Et donc l'Esprit de Dieu, il est toujours au début de tout mouvement et il est évidemment présent au début du mouvement qui consiste à fonder l'Église de Jésus-Christ. Et il sera également présent à la fin des temps, également comme on le voit dans l'Apocalypse, et on l'a même chanté, c'est bien parce qu'on l'a illustré par un chant, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus, viens, Amen ». L'Esprit de Dieu collabore avec l'Église jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Alors on ne peut pas être muet donc sur ce sujet ce matin, et peut-être nous rappeler même le verset de Acte 9, verset 31, qui nous indique que l'Église, sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie, vivait donc en paix, elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur, et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait. Et Luc, l'auteur des Actes, met un accent formidable, que ce soit dans son évangile, que ce soit dans le livre des Actes. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un seul volume, en quelque sorte en deux parties. Eh bien, c'est un des évangélistes qui a le mieux compris, à la fois théologiquement, mais aussi sur le terrain de l'expérience, le ministère glorieux du Saint-Esprit parmi les croyants. Je comprends des fois que la manifestation du Saint-Esprit n'est pas toujours comprise, parce que c'est l'expérience, c'est de l'ordre de l'expérience, c'est de l'ordre de la subjectivité. Et il faut mettre cela en adéquation avec la parole de Dieu, avec l'ordre et la bienséance, l'équilibre, la sobriété que réclame la parole de Dieu. Et donc la manifestation du Saint-Esprit doit être comprise comme il le faut et nécessite beaucoup d'explications, même qui vont au-delà de ce que je pourrais vous dire ce matin, mais qui nécessitent même des prolongations. C'est comme dans les matchs. On peut même faire du tir au but à la fin. Il décrit au mieux l'activité du Saint-Esprit, l'évangéliste Luc. Alors nous allons pas pouvoir voir tout, évidemment, parce que si on devait regarder toute la théologie de Luc ce matin sur le Saint-Esprit, eh bien on sera encore là demain. Je pense qu'il nous faudrait une conférence carrément pour organiser cela. Mais on peut avoir quelques échantillonnages qui nous permettent de mieux comprendre. En tout cas, il y a des parallèles entre l'évangile de Luc et le livre des Actes. Il y a d'abord le commencement. Le commencement dans l'évangile de Luc, c'est la naissance, c'est la nativité, c'est tous les événements qui ont présidé à la venue de Jésus, à son incarnation dans l'humanité. Alors il y a ce commencement, et il y a la naissance donc, il y a l'onction de Jésus ensuite pour le ministère, il y a également, eh bien, lors de l'inauguration de l'Église dans les Actes, mais il y a le baptême, et puis il y a les disciples qui sont remplis. Voilà l'inauguration mise en parallèle par Luc. Le commencement au niveau de Jésus, c'est la naissance, son onction. On peut même dire aussi le baptême de Jésus. Et puis vous avez le baptême dans l'esprit des disciples, dans le livre des Actes. Et puis les disciples donc sont remplis. La nativité, elle est ponctuée par une activité intense du Saint-Esprit. Jamais le peuple d'Israël n'a connu une activité aussi intense lors de la venue de Jésus. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, est vraiment un rôle vraiment prépondérant. On le lit, par exemple, dans Luc, chapitre 1, et au verset 15, quand il est annoncé, eh bien, à Zacharie et à Élisabeth. Je vais quand même prendre le verset, ça ira mieux. Voilà. Lorsqu'il est dit à Zacharie concernant Jean le Baptiste, parce qu'il y a la nativité, mais il y a aussi le précurseur de Jésus, précurseur du Messie qui est Jean le Baptiste, eh bien, il est dit de lui, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. On n'est pas encore dans l'expérience de la Pentecôte, là, pas celle que vont vivre les disciples, mais on est dans une autre expérience. C'est le Saint-Esprit qualifié dans l'Ancien Testament des artisans pour qu'ils soient habiles. Il va qualifier des gens comme Moïse, comme Élie, comme Samuel pour un leadership. Donc c'est un aspect de vocation que le Saint-Esprit va va accomplir à travers des hommes. Et puis, il l'accomplit aussi dans le Nouveau Testament, et il l'accomplit encore aujourd'hui. Il qualifie des hommes pour un certain leadership, pour diriger le peuple de Dieu, alors à différents niveaux. Il y a différents, évidemment, niveaux de leadership dans le royaume de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui sont équipés, d'autres le sont moins, d'autres le sont plus, voilà. C'est comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui qualifie, c'est l'Esprit de Dieu qui distribue les qualifications, les dons, les charismes. Eh bien, Jean le Baptiste, il va être rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et quand on regarde le ministère de Jean le Baptiste, c'est un ministère prophétique dans le sens, pas seulement d'annoncer des choses à venir. Bien sûr, il annonce l'agneau de Dieu, il annonce Jésus, mais surtout, c'est dans sa pratique, c'est dans ce qui se passe dans les cœurs que c'est prophétique. Pourquoi ? Parce que les gens ont d'un seul coup le sentiment qu'ils sont des pécheurs, et ils viennent tous là voir Jean le Baptiste pour être baptisés, parce que quelque chose se passe dans leur cœur. L'Esprit de Dieu prophétiquement agit au travers des paroles de Jean le Baptiste, et les gens sont convaincus de péché. Même les religieux viennent, parfois hypocritement, mais ils viennent quand même parce qu'ils sont secoués par la prédication de Jean le Baptiste. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, et la prédication qui est inspirée du Saint-Esprit, ne laisse jamais personne indifférent. Ça marque. Ou soit les gens ils s'enfuient à toutes jambes, ou soit ils restent et ils demeurent et ils deviennent des disciples de Jésus, ou bien et ils sont froids. Mais il y a toujours une réaction au départ. Alors certains vont se refroidir volontairement, mais au départ, il y a quand même une action qui se passe et une gêne qui peut se produire chez certains. Le mieux, c'est de ne pas rester gêné, mais vraiment d'être curieux et de faire le détour, un peu comme Moïse qui a vu un feu et qui a fait le détour pour voir quel était ce spectacle, cet événement qui se passait. Il y avait de la curiosité chez Moïse, et Moïse a ainsi trouvé la vérité. Moïse a trouvé aussi, en même temps qu'il trouvait la vérité, son identité. Ce matin, quiconque viendra au Seigneur Jésus, va découvrir aussi son identité par la même occasion. Dans Luc chapitre 1, verset 35, on va voir par exemple ce que dit l'ange à Marie, ce qu'il lui annonce. Là encore une fois, c'est le Saint-Esprit dont il est question d'une manière, dans un langage qu'aucun autre évangéliste des évangiles n'emploie. Et c'est vraiment le langage de l'expérience tel que l'a compris et l'a vécu Luc. Luc était un médecin en même temps. Alors je ne sais pas si ça avait un rapport. Est-ce qu'il analysait les choses d'une manière, avec toute l'inspiration évidemment du Saint-Esprit, mais est-ce que dans son humanité il analysait les choses d'une manière différente ? Sans doute, bien sûr que ce qu'il était représentait aussi quelque chose dans son interprétation. Mais voilà, il va dire « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Lors de la nativité, lors de l'incarnation, lors de la naissance de Jésus, on voit ici le rôle encore prépondérant du Saint-Esprit. Il y a un événement qui est tellement important qu'on dit même que c'est l'ombre du Tout-Puissant qui va recouvrir Marie. La puissance de Dieu s'exerce à tel point que ce sont des expressions un peu grandiloquentes qui sont ici exprimées, employées, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et nous savons que l'ombre du Tout-Puissant, dans ce moment-là, dans cette expression, c'est le Saint-Esprit agissant. Et c'est ainsi que le Saint-Enfant va naître de cette femme encore vierge. Nous avons dans l'évangile de Luc Siméon, ce vieil homme qui depuis longtemps prie et qui a un désir intense de voir l'époque où le Messie va venir. C'est un peu comme si nous, aujourd'hui, dans notre génération, on a envie d'être la génération qui va être enlevée par le Seigneur. Eh bien, Siméon, lui, il avait envie d'être dans la génération de ceux qui verraient le Messie venir. Et dans son âge avancé, Dieu lui fait grâce. Et la Bible nous dit qu'il vient au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Comment pouvons-nous venir au temple poussé par l'Esprit de Dieu ? Eh bien, ce jour-là, il a été poussé par l'Esprit de Dieu à venir et à se trouver dans le timing de Dieu au moment où Jésus allait être présenté par ses parents. Et à l'exception de Matthieu qui annonce la conception de Jésus par l'action de la puissance du Saint-Esprit, le récit de Luc, il est sans précédent. Il est différent dans la manière d'exprimer les choses. Et c'est lui qui met le plus d'accent sur la venue du Saint-Esprit dès la nativité, dès le commencement finalement. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle avec les actes, puisqu'il commence aussi les actes par la venue du Saint-Esprit, acte 1, verset 8, qu'on verra tout à l'heure. Dans la conception par le Saint-Esprit, c'est Genèse 1, verset 2 qui nous est rappelé. Il y a un rappel, un écho de l'Ancien Testament qui est là. Lorsque l'Esprit de Dieu participe à la création, eh bien, il participe aussi à l'incarnation. Il participe à la venue de Jésus en tant qu'enfant, le Fils de Dieu venant dans ce monde. Un miracle, un mystère, appelé par Paul le mystère de la piété. Comme lors de la création, c'est un événement unique qui se déroule au travers de cette conception, et c'est pour ça qu'il est précisé que c'est l'ombre du Tout-Puissant qui va agir. Luc nous montre aussi que l'action du Saint-Esprit, elle est toujours accompagnée d'un aspect prophétique et aussi de louange. Et c'est pour ça qu'une église remplie du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une église qui prophétise, qui est prophétique dans sa proclamation, qui est prophétique dans son témoignage, qui est prophétique dans la manifestation des dons spirituels, et qui est aussi une église qui loue, qui entre dans la louange, et même dans l'adoration, parce que l'un conduit à l'autre. Et Jean et Élisabeth, ils sont immédiatement remplis du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Et Zacharie est inspiré prophétiquement. Il parle prophétiquement. Élisabeth également, il y a des cantiques de louange. Marie, ils vont chanter des cantiques de louange inspirés. Il y a un aspect prophétique, une dimension prophétique lors de la venue du Saint-Esprit. Mais il y a en même temps cette louange, cette adoration qui se manifeste, on peut dire, de manière correspondante. On peut dire aussi que l'effusion charismatique du Saint-Esprit dans le récit de l'enfance de Jésus va toujours aboutir à chaque fois à la louange et à une adoration prophétique. C'est ce qu'on voit dans Luc. C'est pareil avec Jean le Baptiste, sa naissance a provoqué la joie de ses parents. Une joie pas seulement d'avoir un enfant, mais la joie de savoir qu'on est dans le plan de Dieu. La joie de savoir que tout cela participe au plan de Dieu. Ce que nous dirions, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, eh bien pour les parents de Jean le Baptiste, pour Marie, pour Joseph, tout a concouru pour leur bien. Ils ont été des instruments particuliers dans le plan de Dieu. Et ça, c'est formidable. Et nous avons tous une mission particulière. Nous sommes tous appelés à entrer dans le plan de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est parfois au-dessus de nous, en train d'incuber une situation, parce que nous, on est un peu quand même long à la détente, il faut le dire, hein, les uns et les autres. Et le Saint-Esprit a besoin de faire émerger quelque chose, une situation, pour que nous puissions aller de l'avant et entrer dans le plan de Dieu, dans notre destinée aussi, parce que c'est important. Une dimension prophétique donc, puisque même Jean le Baptiste, il a annoncé le Messie qui venait, et il est venu aussi, nous dit la parole de Dieu, dans l'esprit et dans la puissance et dans l'esprit qui ont animé le prophète Élie. Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu vient aussi dans la puissance. Il revêt de puissance, il apporte la puissance dans l'Église. Et puis, évidemment, l'Esprit prophétique qui animait Élie est aussi là chez Jean le Baptiste, comme il est aussi appelé à être dans l'Église. Lorsque le Saint-Esprit est présent, lorsqu'il est aimé, lorsqu'il est chéri, lorsqu'on lui souhaite la bienvenue, lorsqu'on aime la présence du Saint-Esprit. Évidemment, si on a un peu peur du Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, on dit toujours que c'est un gentleman, c'est-à-dire qu'il ne s'impose jamais à personne. Mais lorsqu'on l'éteint, lorsqu'on l'étouffe, il n'y a plus rien qui se passe, et après nos églises, elles sont un peu moribondes. On voit bien quand la flamme ou l'intensité de la flamme baisse dans les églises, on devient vite religieux, on devient vite conservateur, on devient des monuments, on n'est plus un mouvement. L'Esprit de Dieu nous conduit dans un mouvement, pas dans un monument. Un monument, c'est figé, ça commémore la mort, ça commémore le passé. Un passé parfois glorieux, il y a des églises qui se rappellent du réveil avec Tartampion, et puis c'était en 1800, je ne sais plus combien, mais nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. On s'en fiche du passé, c'est que pour l'histoire, c'est un intérêt culturel, c'est tout, mais ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Je suis peut-être une personne avec des besoins, je suis venu rechercher auprès du Seigneur quelque chose, je dois le trouver, parce que le Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et la présence de son esprit n'a pas changé, c'est nous qui changeons le cours des choses, c'est nous qui, par nos doutes, c'est nous qui, par notre façon d'éteindre le Saint-Esprit, empêche son action, parce qu'il ne s'impose pas à nous, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de délicat, on parle de la colombe, pour le symboliser, c'est parce que la colombe, elle est délicate, elle est douce, Et le Saint-Esprit vient aussi dans la douceur, même si parfois il peut mettre du punch, mais il ne s'impose pas avec violence à nous. Et nous devons l'accueillir si nous voulons vivre des choses extraordinaires avec lui, si nous voulons voir eh bien, ce que les premiers disciples ont vécu, ben, il nous faut vivre du même Saint-Esprit qu'eux, ils ont vécu et qu'ils ont accueilli avec vraiment beaucoup de ferveur. Ils ont même passé 40 jours hein, pour l'attendre, les 120. Ils ont prié, ils ont voilà. Et quand il a fallu qu'il vienne, quand c'était le timing de Dieu, il est venu et ça a tout changé. Pierre a commencé à exercer un ministère puissant dans la prédication à tel point que beaucoup de gens se sont convertis, hein, vous connaissez le nombre. Et puis, c'est ça toute la différence, finalement. Et puis, après, on a parlé de commencement, après on arrive à ce qu'on appellera la proclamation d'inauguration des choses. Alors, vous avez Jésus qui inaugure son ministère, comment ? Vous le voyez à Nazareth. Proclamer un sermon tout en lisant le grand rouleau d'Ésaïe chapitre 61. Et c'est à mettre en parallèle avec ce que Luc montre, le sermon de Pierre à la Pentecôte dans Acte 2. Ça commence pareil, le livre de l'évangile de Luc et le livre des Actes sont à mettre en parallèle. Il y a le sermon de Jésus à Nazareth en Luc 4 et le sermon de Pierre à la Pentecôte dans Acte 2. Luc va lancer le ministère public de Jésus, enfin c'est pas lui qui le lance, je veux dire, il l'écrit concernant le ministère public de Jésus. Il fait le lien aussi avec Jean, qui Jean le Baptiste va dire, va préparer les choses et va dire, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, moi je baptise dans l'eau, mais lui il baptise dans l'Esprit et le feu. Une indication vraiment de Jean le Baptiste qui présente Jésus. Il l'a présenté comme l'agneau de Dieu, mais il le présente aussi comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Évidemment, Jésus, pour être le Christ, Christ ça veut dire le oint, eh bien, il fallait qu'il soit oint du Saint-Esprit, sinon il n'était oint de rien. Il n'était pas oint du tout, il n'était Christ de rien, Messie de rien. Et l'action du Saint-Esprit est là pour faire de Jésus, pour donner à Jésus le ministère qu'il doit avoir. Jésus se soumet complètement en tant qu'homme, en tant que Dieu fait homme. Il se soumet complètement à Dieu et il laisse les choses juste s'accomplir. D'abord le baptême et aussi cette onction qu'il reçoit du Saint-Esprit lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est ainsi que Jésus devient le Christ, le oint qui est promis par les Écritures. Il a alors l'Esprit sans mesure. Il est soumis à la direction du Saint-Esprit, comme Luc va le montrer tout au long de son évangile, et il dépend du revêtement de l'Esprit qu'il reçoit à ce moment-là. Luc 3, verset 22 nous dit « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » J'aime la précision de Luc. Il est précis. Il nous décrit vraiment l'expérience. L'Esprit est descendu sous une forme corporelle, comme une colombe. Il n'a pas dit que c'était une colombe, d'ailleurs, mais comme une colombe. La nuance est quand même de taille. Dans Luc 4, versets 18 et 19, le Seigneur Jésus lit ce qui est écrit dans Ésaïe 61, et ça a trait à, une fois encore à qui ? À l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il va dire, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie parce qu'il est l'incarnation de l'accomplissement de cette écriture. C'est sur lui que l'onction du Saint-Esprit est venue et c'est lui qui a ce pouvoir de délivrer, eh bien, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance, et nous le voyons effectivement chasser des démons, nous le voyons libérer des gens de la maladie, nous le voyons guérir des aveugles, des opprimés, etc. La Bible dit que Jésus a fait le bien, il guérissait eh bien, tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Et il est question de son onction dans ce passage qui relate dans les Actes l'action de Jésus. Jamais Jésus n'agit seul, il agit toujours de concert avec le Saint-Esprit. Alors Luc va décrire le baptême de Jésus, Luc va décrire la tentation de Jésus, Luc décrit donc le sermon d'inauguration dans la synagogue, et Christ devient charismatique, il est oint du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu sur Jésus à son baptême, pas avant, comme une manifestation objective, externe, physique, puisqu'il est dit que c'est comme, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et en même temps, il y a la voix du Père qui se manifeste. En même temps, et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu atteste qu'avec Jésus et en Jésus, la communication avec Dieu est à nouveau ouverte pour Israël. Je dis pour Israël, Israël et ensuite les autres, évidemment. Mais à ce moment-là, on est en Israël. Et là, il y a, après 400 ans de silence, Jean le Baptiste a proclamé le Messie. Le Messie vient et le silence prend fin et la communication est rétablie avec Israël. Israël va-t-il écouter ? C'est autre chose. Théoriquement, leur principale prière, c'est « Écoute, Israël !» Mais bon, ont-ils écouté ? Seule une partie d'entre eux ont écouté. L'autre partie s'est endurcie. Mais il y a la voix du Père qui est concomitante là avec l'action du Saint-Esprit. Puis, lors de la tentation, Luc nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Est-ce que vous imaginez, vous ? Vous êtes là ? Le Seigneur vous oint du Saint-Esprit, vous baptise dans son esprit, vous remplit de son esprit, et bizarrement, le Saint-Esprit vous conduit dans le désert. Alors, je ne dis pas qu'il va vous conduire dans le désert, évidemment, mais ça nous parle de toutes sortes de choses, de toutes sortes de situations qui ne sont peut-être pas forcément faciles. C'est une mise à l'épreuve. Vous savez, récemment, je réfléchissais à une division qui a eu lieu dans une assemblée où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais je me dis en même temps, quand j'écoute un petit peu ce qui se passe, ce que disent les gens, parce que vous avez toujours des échos, mais je me dis, le problème, c'est que quelque part, ils n'étaient pas si unis que cela, il y avait une unité de façade. Et vous ne croyez pas que des fois, eh bien, Dieu permet cela pour consolider l'authenticité. Parfois, les choses ne sont pas dans l'authenticité. Alors Dieu brise des choses pour reconstruire sur des bases saines. Et ça, c'est formidable. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que je crois que c'est vraiment ça, en fait, la clé. C'est que Dieu ne se satisfait pas. Ce n'est pas parce qu'on est une église de 1500 membres qu'on est l'église parfaite. Hein. On peut être 1500 membres et être 1500 tocards, excusez-moi l'expression. C'est-à-dire tocards du toc, hein, du faux. Hein, vous m'avez compris. Et je crois que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Mais on peut être une petite église. Et s'il y a de la qualité dans la recherche de Dieu, dans la qualité de ce qu'on vit avec lui, bien sûr, l'Église est appelée à grandir, on ne va pas rester dans le petit. Bien qu'on aime bien en France, vous savez qu'on dit toujours on prend un petit café, on fait dans ma petite maison, ma petite télé, bon, voilà, hein, ma petite chambre, mon petit bureau. On parle toujours de choses petites. Ça, c'est un langage à changer, bien évidemment. Mais néanmoins, moi, je crois que le Seigneur veut des choses de qualité. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, il atteste des choses. Et si parfois il conduit une église dans le désert, ou une personne dans le désert, c'est pour tester sa fidélité. Et Jésus a été mis à l'épreuve lors de la tentation. Parce qu'il aurait très bien pu humainement pécher. Il aurait pu choisir de pécher. Ce n'est pas qu'il pouvait pécher, c'est qu'il pouvait choisir de pécher. Mais il ne l'a pas fait. Dieu merci d'ailleurs, hein, parce que sinon il n'aurait pas pu aller à la croix mourir pour nous. Mais le diable savait qu'il pouvait, puisqu'il lui a proposé des choses. Il lui a presque proposé d'être son adjoint. Vous remarquerez qu'il ne lui a quand même pas proposé d'être le chef, mais il lui a proposé d'être son adjoint. Si tu te prosternes, moi je te donnerai tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde lui appartenaient hein, finalement à Satan. Et pourtant il les donnait à Jésus, en échange de son consentement, de son obéissance. Donc il aurait été l'adjoint, le bras droit. La tentation, elle est là. Et c'est l'Esprit de Dieu, nous dit la parole, qui a conduit Jésus au désert. Qui a conduit Jésus dans cette situation où il a été confronté à l'ennemi par excellence, à l'ennemi des âmes. Et Jésus a bien sûr remporté une éclatante victoire qui a fait fuir Satan et ses mensonges et ses fausses propositions, parce qu'en fait, quand il propose quelque chose, eh bien, c'est toujours pour nous détruire à la fin, vous le savez bien. C'est pour ça qu'il doit parfois séduire des gens qui sont dans le milieu du show business en leur promettant monts et merveilles à la fin. Ces gens qui n'ont pas été forcément sages des fois dans leur vie, eh bien, ils finissent mal. Ça finit par la drogue, la destruction, voilà. Et donc, le Saint-Esprit, nous le voyons sous la plume de Luc, eh bien, conduire Jésus dans le désert. Et obéissant à la direction du Saint-Esprit, Jésus va dans le désert, une tentation qui avait pour but de le préparer à son ministère, parce que Dieu ne prend pas plaisir à nous mettre à l'épreuve pour rien. Il nous met à l'épreuve pour nous qualifier, pour nous faire aller plus loin. Et peut-être que certains ici ont vécu des épreuves dans leur vie, des choses peut-être pas faciles, justement parce qu'il y a besoin d'approfondissement avec Dieu. Il y a peut-être besoin de faire certaines expériences. Non pas que Dieu a voulu que vous soyez dans ces situations-là, mais Dieu les a permises parce qu'il a un plan pour vous, tout simplement, pour vous faire sortir avec une issue favorable d'une telle situation et vous apprendre des choses glorieuses et vous faire entrer dans quelque chose de glorieux, je dirais une glorieuse destinée. Et souvent, on regarde notre situation, mais c'est bon d'avoir des personnes autour de nous qui nous disent bah, « finalement, ta situation n'est pas si dramatique que cela, voilà ce que le Seigneur te propose ». Et qu'il permette à la personne de regarder plus loin et de ne pas être fixé uniquement sur sa situation. Parce qu'on est tous pareils, quand on traverse une situation difficile, qu'est-ce qu'on regarde? Uniquement la situation difficile. Mais des fois, nous avons besoin d'être entourés par des frères et sœurs qui vont nous dire « mais non, regarde, tu es dans cette situation-là, mais regarde ce que le Seigneur est en train de préparer, vois un petit peu ». Parfois, les autres voient mieux que nous, évidemment. On voit cela donc chez Luc, qui nous décrit vraiment l'expérience. Et Luc est le seul à relater la fin de cette tentation. C'est le seul des évangélistes qui mentionne dans son récit de la vie de Jésus la fin de la tentation. Il va dire dans Luc 4, verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Il y a quelque chose qui s'est passé lors de la tentation. Lors de cette mise à l'épreuve, Jésus ne revient pas à Eden. Non pas qu'on lui a fait du mal, là, c'est pas du tout ça. Mais la Bible nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Son ministère débute avec un éclat et avec puissance. Et la conséquence se fait vite sentir, sa renommée se répand dans tout le pays d'alentour. C'est formidable. Et Matthieu et Marc associent le début du ministère de Jésus avec l'emprisonnement de Jean le Baptiste. Et Luc est le seul à insister sur le revêtement de puissance de l'Esprit sur Jésus. Il a une théologie à lui, Luc. Ce n'est pas la même que les autres. Elle est plus basée sur l'expérience. Il a observé. C'est un médecin. Et finalement, il a un esprit analytique. Et il observe. Il faisait des expériences aussi. La médecine, c'est expérimental, c'est pratique. Et c'est un peu plus à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le médecin est plus sur son ordinateur des fois que sur votre corps. Hein ? Mais à l'époque, on observait, etc. Voilà. Et il a observé la vie de Jésus et il a bien observé les expériences avec le Saint-Esprit. La prédication de Jésus de Nazareth, de Jésus à Nazareth, il lit le rouleau d'Ésaïe 61 qui parle de l'onction du Messie par l'Esprit. Et il annonce « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et c'est complété par le récit de la tentation et ce revêtement de puissance qui est la caractéristique du ministère de Jésus. Il est le oin par excellence. Il a reçu l'Esprit sans mesure. J'ai relevé qu'il y a un écrit qui s'appelle le Targoum de Jonathan. Ce qu'on appelle le Targoum de Jonathan, c'est ni plus ni moins le texte original des manuscrits, si vous préférez, de l'évangile de Luc, qui date du IIe siècle, en fait. Donc, qui est une traduction du texte original. Et il traduit le texte, justement, sur lequel Jésus parle qu'il était oint du Saint-Esprit. L'esprit de prophétie venant de devant le Seigneur Dieu est sur moi. Voilà comment le Targoum de Jonathan traduit les termes de l'hébreu en araméen. Parce qu'en fait, les Targoums, ils traduisaient l'original hébreu en araméen. Et voilà ce que cette expression qui est employée, c'est « l'esprit de prophétie venant de devant le Seigneur Dieu est sur moi ». Et vous voyez encore la caractéristique, quand le Saint-Esprit vient, il y a l'esprit de la prophétie. On le retrouve, cette expression, dans l'Apocalypse, l'esprit de la prophétie. L'Église et l'Esprit disent « viens ». Et preuve en est, Jésus va défier la foule en disant « je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie ». Il se proclame prophète à ce moment-là. Et les gens le reconnaissent comme tel, mais ils le rejettent et veulent le tuer. S'ils ne l'avaient pas reconnu comme prophète, ils n'auraient aucune raison de le tuer et de vouloir le précipiter dans l'abîme. Vous savez qu'on a scié les prophètes. La Bible dit qu'on a persécuté les prophètes. Le peuple juif a persécuté ses propres prophètes. Donc si on n'avait pas reconnu à ce moment-là que Jésus était prophète, on n'aurait pas cherché à le tuer, ça n'aurait pas de sens. Si Jésus ne représentait pas une menace pour eux, il n'aurait rien fait pour l'empêcher de nuire. Et puis dans Luc chapitre 7, verset 16, nous lisons « Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparu parmi nous ». Il parle de Jésus. « Et Dieu a visité son peuple. » La foule le reconnaît, mais le rejette finalement et essaye de le tuer ensuite. Dans Luc chapitre 7, verset 16. Jésus est finalement le prophète qui est annoncé par le livre du Deutéronome, au chapitre 18. Et il n'est pas étonnant qu'il soit, lors de la transfiguration, avec deux personnages caractéristiques, Moïse et Élie, qui sont tous deux des prophètes qui ont été marqués par l'action prophétique du Saint-Esprit. C'est avec Moïse et c'est avec Élie que Jésus converse lors de la transfiguration sur cette montagne. Moïse, Élie, deux prophètes. Et Moïse est celui qui a annoncé dans le Deutéronome le prophète qui viendrait. Et nul doute qu'ils discutent de ces choses lorsqu'ils sont en conversation. Ils parlent certainement de la croix. Ils parlent surtout de l'accomplissement des prophéties, je le pense. Enfin, j'extrapole un peu, évidemment. Nul ne connaît la conversation qu'ils ont eue, mais on peut supposer que ça avait trait à ces choses importantes pour l'avenir de l'humanité. L'onction, la direction, le revêtement par l'Esprit de Jésus définissent finalement tout son ministère. Et après, bien sûr, il y a les miracles confirmés. Et nous-mêmes, nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes un signe. Et l'Esprit de Dieu, dans le langage de Luc, il parle aussi toujours de quelqu'un qui manifeste la présence du Saint-Esprit comme étant un signe. C'est quelque chose à voir peut-être une autre fois, mais le chant qui est chanté est juste. Nous sommes un signe. À partir du moment où l'Esprit de Dieu est présent dans l'Église, chaque chrétien est un signe de la présence de Dieu. Chaque chrétien est un signe de l'action du Saint-Esprit. Des miracles confirmés, puisque des démons ont été chassés, des malades guéris à Capernaüm, et en même temps, parallèlement dans le livre des Actes, lors de l'inauguration, une fois les disciples revêtus de puissance, qu'est-ce qui se passe? Il y a le boiteux de la belle porte du temple qui est guéri. Par exemple, un miracle caractéristique, même s'il y en a eu d'autres, mais c'est le miracle qui marque l'inauguration de la progression de l'Église revêtue du Saint-Esprit. Le succès de Jésus, des acclamations populaires très répandues à cette époque-là, à un moment donné, eh bien, trouvent son parallèle. Alors, si on voit ça dans Luc, elles trouvent leur parallèle dans le livre des Actes, écrit par Luc aussi, où l'Église elle-même reçoit des félicitations, des congratulations, parfois des gens du monde. Il est dit que les gens avaient de la crainte et étaient dans l'émerveillement de ce que faisait l'Église. Il y a eu aussi la persécution, bien entendu, mais il y a eu un moment, vous lisez dans le livre des Actes, où les gens approuvent ce qui se passe et ont de la crainte vis-à-vis des chrétiens, surtout après ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, d'ailleurs. Il est dit qu'il y avait de la crainte chez les gens, là. Et les gens craignaient les chrétiens, et en même temps, certains étaient dans l'admiration. Peut-être certains même s'approchaient, évidemment. Mais on trouve cela avec Jésus, on trouve le parallèle dans le livre des Actes. Ensuite, il y a de l'opposition. Alors, de même, Jésus a connu l'opposition des pharisiens, qui étaient les leaders des Juifs, les sadducéens aussi, les scribes, les pharisiens. Il a connu l'opposition des religieux. Et en même temps, quand on regarde eh bien, l'Église, elle va vite aussi trouver de l'opposition. Et c'est toujours des religieux que ça va venir, la plupart du temps, avec le Sanhédrin, et ce qui va entraîner la diaspora dans à partir d'acte 7 et 8. Hein. Et les chrétiens vont alors réaliser qu'il ne faut pas qu'ils restent seulement à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie, mais qu'ils doivent aussi aller jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui est le mandat qui leur est confié par l'action du Saint-Esprit, le revêtement qu'ils ont reçu. Alors Dieu a permis cette situation de persécution pour que les chrétiens eh bien, se répandent un peu partout et puissent annoncer l'Évangile. Ensuite, vous avez l'arrestation, le procès de Jésus. Jésus a connu un triple procès. Le premier procès devant le Sanhédrin, deuxième procès devant Pilate et ensuite devant Hérode. Et Paul, qui représente l'Église primitive dans les Actes, va connaître un triple procès devant Félix, devant Festus et devant le roi Agrippa. Vous voyez, il y a des parallèles. Et puis, il y a l'accomplissement ensuite. L'accomplissement, bien, vous avez la croix pour Jésus et dans l'Église primitive, c'est le martyr, principalement représenté par Paul et Pierre. Et Paul, lui, ben, il est emprisonné à Rome. Et donc c'est la fin de son ministère, l'apogée de son ministère. Mais voilà, c'est l'accomplissement en même temps et l'expansion de l'Église est engagée. Alors, quelle application pratique faire à l'Église de toutes ces choses ? L'Église, elle est née de l'Esprit, finalement. Et nous naissons de nouveau. Quand nous nous convertissons, nous naissons de l'Esprit. Nous naissons d'en haut. Et ensuite, nous avons besoin d'un revêtement de puissance qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Notre expression, être baptisé dans l'Esprit, c'est-à-dire immergé dans l'Esprit, c'est parallèle. C'est la même expression pour dire une chose semblable. Et on reçoit ce revêtement de l'Esprit. Et Jésus n'aurait pas pu exécuter sa mission dans le monde sans le Saint-Esprit. Il avait besoin, en tant qu'humain, en tant qu'homme, complètement homme, du Saint-Esprit. Et il a connu cette dépendance. Et l'Église ne peut pas non plus être plus que Jésus. Elle a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour sa croissance, pour son expansion, pour sa vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas nous passer de la présence du Saint-Esprit. Nous pourrions ce matin être de ceux qui commémorent la Pentecôte comme une fête religieuse. Moi, je m'y refuse. On commémore, oui, mais on vit les choses chaque jour. On connaît le Saint-Esprit, on marche avec le Saint-Esprit, on marche dans l'Esprit, on vit dans l'Esprit et on est rempli de zèle par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui se passe. Soyez fervents d'esprit. Obéir à cet ordre de l'apôtre Paul n'est pas possible sans la ferveur que donne le Saint-Esprit. Ce zèle, ce feu qui bouillonne en nous et qui nous donne cette passion, qui nous communique ce zèle pour lui, pour l'adorer, pour le servir. Il n'y a pas un matin quand on est rempli du Saint-Esprit où on ne se lève pas, où on n'a pas envie de servir le Seigneur avec joie, faire quelque chose pour lui tellement on est empreint de ce zèle. Il faut de la sagesse, évidemment, hein. Sinon on courrait partout. Mais il y a ce zèle, ce bouillonnement, et on ne peut pas ne pas le laisser monter. On a besoin de ce zèle. Jésus est le détenteur de l'Esprit à ce moment-là. Une fois monté au Père, il devient le détenteur de l'Esprit, et celui surtout qui le donne, qui le répand. Acte 2, verset 33 est un verset clé. « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, parce que ça se voit et ça s'entend, frères et sœurs. » Un revêtement qui nous a été promis par le Père. C'est la promesse du Père. Le Fils prodigue lui-même, il a reçu un revêtement. Revêtez-le de la plus belle robe. Et nous avons besoin de la plus belle robe. Le revêtement de puissance que nous accorde le Seigneur. Et nous avons reçu cette promesse d'un revêtement de puissance pour le témoignage. Acte 1, verset 8. Vous recevrez de la puissance, de la dynamis, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça peut nous conduire loin. Ça peut nous conduire loin. Ne souriez pas parce que j'ai connu une sœur qui, dans sa grande faiblesse, dans sa, on va dire, dans la situation qui était la sienne à l'époque, on n'aurait jamais pu penser que Dieu allait l'employer. Elle venait de sa petite campagne, là, à Régnoé. La campagne. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Régnoué dans les Ardennes, hein? Eh bien, cette sœur, inspirée par le Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit, avait une correspondante en Ukraine, je crois. Et elle est partie toute seule, avec la crainte, les genoux qui s'entrechoquaient, en train jusque là-bas. Elle est partie en Russie. Et là, elle a évangélisé sa correspondante. Cette femme s'est convertie, ainsi que son mari. Et cette femme n'était pas n'importe qui, c'était l'attachée c'était une attachée culturelle. Et cette dame qui s'est convertie, elle est aujourd'hui la secrétaire particulière du président de la République de Marie. Vous ne connaissez pas, mais c'est une petite république à côté de la Russie. M-A-R-I. Eh bien, le président lui-même est chrétien. Parce que la dame qui était convertie, elle a évangélisé le président qui s'est converti aussi. Alors, vous voyez, de Régnoué jusqu'à chez Petrouchka, il y a des kilomètres, mais il n'y a pas de kilomètres, il y a nos limites avec le Saint-Esprit, nos limites. Et elle est revenue après dans ses Ardennes natales, elle a accompli sa mission, vous voyez, c'est extraordinaire. Elle pourrait vous témoigner de cela elle-même, mais je résume, je synthétise, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément immédiatement concevoir, mais Dieu peut nous faire voyager. De différentes manières d'ailleurs, même dans la prière, vous savez. rempli de l'Esprit. En acte 2, cette expression va revenir, rempli du Saint-Esprit. Et que se passe-t-il ? C'est toujours accompagné du parler en langue et de la prophétie. Vous voyez toujours l'aspect prophétique accompagné, eh bien, l'action qui consiste à être rempli du Saint-Esprit. Puis aussi, il est écrit parfois, par exemple dans acte 13, verset 52, « rempli de joie et d'Esprit Saint ». Partout où le Saint-Esprit vient, il y a la joie. Et parfois, c'est dommage de voir les chrétiens avec des mines tristes. Vous vous rappelez que, je crois que c'est quelqu'un qui disait à l'époque, un chrétien triste est un triste chrétien. Eh bien, ce qui caractérise un vrai chrétien, c'est sa joie, la joie qui vient du Saint-Esprit, qui est une joie perpétuelle. Ce n'est pas une joie qui s'enflamme juste pour un feu de paille, c'est une joie perpétuelle. Et puis, ces gens ont adoré Dieu, ils ont dit des merveilles sur Dieu dans leur langue natale et également dans des langues spirituelles. Et Luc fait une différence entre être plein du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est deux expressions différentes. Il décrit Jésus comme étant à un moment plein du Saint-Esprit, les sept diacres dans acte 6 comme étant plein du Saint-Esprit, Étienne, dans acte 7, verset 5, Étienne, plein du Saint-Esprit. Barnabas, dans acte 11, verset 24, plein du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie ? Cette expression, quand on lit le contexte, elle est associée avec la sagesse que vont exprimer ces personnes, la foi qu'ils vont exprimer et la puissance. Tout ça, ce sont des équipements pour le service pour Dieu. Tandis que l'expression « rempli du Saint-Esprit » va décrire davantage l'inspiration prophétique, parler en langue, prophétie, adoration, voilà, et le témoignage également. Il y a vraiment, il ne faut jamais l'oublier, dans la venue du Saint-Esprit, dans cette particularité de la Pentecôte, la dimension missionnaire. Que ce soit sur place, à Jérusalem, donc à Charleville-Mézières pour nous, ou en Judée, c'est-à-dire dans toutes les Ardennes, ou à Samarie, c'est peut-être dans l'Aisne ou je ne sais où. Et puis ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre, il y a cette dimension missionnaire. Nous ne sommes pas appelés, si nous voulons vivre avec le Saint-Esprit, à être uniquement assis sur un banc d'une église, même si nous sommes âgés, j'oserais dire, parce qu'il y a des personnes âgées qui vivent des choses formidables dans la prière, qui intercèdent et qui vivent des choses formidables. Et grâce à elles, grâce à ces personnes âgées, l'église vit des choses formidables parce qu'elles sont toujours dans l'intercession, comme Siméon, comme Anne. Et elles vivent, ces personnes-là, une dimension missionnaire dans leur petite maison, peut-être même leur maison de retraite. Puis elles témoignent, certaines, dans leur maison de retraite. Mais en tout cas, pour chacun de nous, il y a une dimension missionnaire. Nous sommes appelés à être des témoins. Et toujours, il y aura l'action du Saint-Esprit liée à l'expansion de l'Église. Sinon, la vie de l'Esprit s'éteint. S'il n'y a pas des nouvelles personnes, s'il n'y a pas des gens évangélisés, s'il n'y a pas des gens qui se convertissent, c'est que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. L'Église est alors à la rabâche. Et elle n'est pas dans le plan de Dieu. Il faut alors se recentrer, se refixer et redécouvrir notre rôle, notre mission, notre mandat. Matthieu 28, 18, allez et prêchez la bonne nouvelle. Vous recevrez, acte 1, 8, de la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est une constante. J'aimerais quand même vous illustrer un peu cela par l'expérience d'une dame dont j'entendais parler hier. C'est d'ailleurs écrit dans le livre « La biographie de l'évangéliste Reinhard Bonnke », l'évangéliste allemand. Il en parle parce qu'à un moment donné, il était en train de prêcher au Kenya et il s'est trouvé qu'au Kenya, eh bien, il y avait une dame qui... Alors, il y avait des centaines de milliers de gens qui s'approchaient de Dieu, mais il y a une personne qui, à un moment donné, avait vécu dans son enfance des choses belles avec le Seigneur. Elle avait depuis l'enfance le désir de servir Dieu. Et puis, eh bien, dans son âge de jeune femme, elle a voulu se marier. Donc, elle s'est mariée avec un missionnaire européen. Et tout semblait partir sur de bonnes bases. Mais les parents n'étaient pas d'accord avec ce mariage. Ils sentaient que ça venait pas de Dieu. Et elle n'a pas obéi à ses parents. Comme quoi, des fois, il faut quand même écouter les parents. Et elle, quelques années plus tard, ça s'est terminé par un divorce... voilà, parce que le mari, il est parti, etc. C'est une situation bizarre. Et cette femme en a conçu une souffrance parce qu'elle voulait vraiment servir Dieu. Elle voulait vraiment que sa vie soit utile au Seigneur. Et ça n'a pas été le cas. Alors, elle a vu un jour, elle est allée à un des rassemblements au Kenya où il y avait Bonnke qui prêchait, il y avait des milliers de gens. Elle a vu les miracles, elle a vu les guérisons, les yeux des aveugles qui s'ouvraient, les boiteux, les estropiés qui étaient guéris. Et elle a dit au Seigneur, moi, je voudrais, ce que je voudrais dans mon cœur, eh bien, c'est Lui, il y a des milliers de gens qui se convertissent grâce à lui, mais moi, donne-moi 100 personnes, et ça me suffira pour que je sois une femme heureuse. Et elle voulait aller, elle a senti que Dieu lui disait, va à l'imposition des mains, mais elle n'a jamais pu y aller, parce qu'il y avait trop de monde. Et donc, il ne pouvait pas imposer les mains à une foule complète, et donc elle est partie, et elle en a conçu évidemment de la souffrance, et pendant plusieurs années, elle a dirigé un groupe de femmes, mais le ministère avec lequel elle servait au sein de ce groupe de femmes n'avait aucune puissance. Il n'y avait rien qui se passait, les gens écoutaient, c'est tout, elle enseignait, mais il ne se passait pas grand-chose. Et puis, 6 ans après, vous voyez comme quoi le timing de Dieu, des fois, il est bizarre, mais 6 ans après, cette femme, elle a tout fait, elle a appris que Bonnke, il allait à Oslo. Et comme elle avait des amis à Oslo, elle a fait le voyage jusqu'à Oslo. Et il ne pouvait pas ne pas la remarquer, c'était la seule personne de couleur, la seule africaine, qui se trouvait au milieu des Norvégiens, qui étaient tout blancs. Hein. C'est des vikings. Et en voyant toutes ces personnes, il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer avec cette dame-là, mais il ne savait pas quoi, bien évidemment. Et puis elle attendait la fin de la prédication pour immédiatement courir à la prière. Elle avait une soif tellement intense que lui, il se rappelle uniquement qu'il a posé ses mains sur elle pour prier pour elle, mais que très vite, ça lui a échappé, ça ne venait pas de lui. Cette femme, il a senti un courant puissant, et ce courant puissant l'a projeté à 15 mètres en l'air, dans les airs. Et elle s'est retrouvée, tout doucement, sur le dos, sur une chaise. Et alors là, elle était comme dans le coma, hein. Elle ne sait même plus ce qui s'est passé. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a commencé donc à continuer avec son groupe, et là, des centaines de personnes se sont converties. Des centaines, des centaines, des centaines. À la fin, elle avait une grande église et elle a dû louer des stades. Les pasteurs la critiquaient au départ, mais après, sont tous venus lui demander pardon. Et aujourd'hui, c'est un ministère reconnu. Et Reinhard Bonnke avait prié et demandé à Dieu, mais comment, pourquoi tout cela? Pourquoi cette femme a dû passer par ces souffrances? Et il lui a répondu, j'ai voulu que le monde sache que je peux prendre un vase brisé et en faire un vase d'honneur. Et cette femme, aujourd'hui, au Kenya, et au-delà même, parce qu'elle se rend même en Angleterre, enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, finalement, et elle a un ministère puissant. Et elle a rempli le même stade que Reinhard Bonnke avait rempli de gens. Dieu a transcendé sa prière. Elle demandait 100 personnes. Eh bien, aujourd'hui, elle remplit le stade avec le même nombre de gens que Reinhard Bonnke. C'est la grâce de Dieu. C'est aussi le désir, la soif intense qu'elle a créée en elle-même. Parce que vous savez, la soif, on doit se la créer. Ça ne vient pas tout seul. Quand vous avez soif, si je vais chez Thérèse et que je lui demande un verre d'eau, il faut que je lui demande. Elle ne va pas forcément savoir que j'ai soif. Bon, par politesse, elle va me le demander, évidemment. Mais ce que je veux dire, si ça fait une heure qu'on est ensemble, elle ne va pas forcément savoir que j'ai soif. Il faut que je lui demande. Thérèse, peux-tu me donner un verre d'eau? Elle va le faire, évidemment. Elle a beaucoup d'amour, cette sœur, donc elle va me donner le verre d'eau. Mais le Seigneur, c'est pareil. Si on n'a pas soif, c'est à nous de créer notre soif. C'est à nous de créer notre faim. Comment? En lisant la parole de Dieu, en entretenant aussi notre rêve, notre ambition pour le Seigneur, en entretenant notre désir, notre soif, notre faim. Et c'est comme ça que le Seigneur va pouvoir agir. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est aussi du pratique. Luc est quelqu'un d'expérimental, et on ne peut pas rester uniquement sur le terrain théologique. Il nous faut aussi concevoir l'application pratique de ce que théologiquement il nous est dit dans la parole de Dieu. Donc il est temps pour chacun d'entre nous d'être renouvelé dans l'esprit, de recevoir l'esprit, de lui souhaiter la bienvenue dans notre vie, de devenir son temple, de recevoir sa sagesse, de recevoir la hardiesse qui va nous permettre de témoigner et de percuter les autres. Il ne s'agit pas seulement même d'avoir de la hardiesse, mais d'avoir de l'efficacité par les paroles que Dieu va nous donner, qui seront des paroles ointes et qui vont vraiment percuter les gens. Et puis l'audace, la joie, l'inspiration prophétique, l'adoration inspirée, comme nous l'avons vu au travers des textes, l'action du Saint-Esprit qui accompagne vraiment Jésus, qui accompagne ensuite les disciples. Des choses qui parfois nous échappent parce que c'est comme des petits détails, vous voyez, dans les Écritures. Mais ces détails sont très importants puisque la parole est inspirée et totalement et pleinement inspirée de Dieu. On va prier, si vous le voulez bien, et rester sur ce terrain de la foi dans ce que Dieu peut faire pour nous, à travers son esprit. Amen.